Good evening, ladies and gentlemen.
Hey, what's up, man?
Le spectacle, come on!
1, 2, 3, oh!
Le matin, j'ai une manie. Quand mon téléphone sonne pour m'indiquer qu'il est l'heure de me lever, mon premier geste, encore allongé et embrumé, est de consulter directement les informations. Ce matin, la première information qui est venue à moi, c'était une vidéo, celle de Justin Trudeau, le tout jeune Premier ministre canadien. Je ne suis pas là pour faire de la politique, on pense bien ce qu'on veut de cet homme, moi je suis là pour vous parler de culture. Et de culture, Justin Trudeau a su mieux en parler que nos dirigeants depuis un temps que je peine à me remémorer. Justin Trudeau, dans cette vidéo, s'est adressé à tous les musulmans du Canada et du monde entier. Il leur a dit « Aïd Moubarak ». Aïd Moubarak, c'est ce que les musulmans se disent le jour de l'Aïd al-Fitr. Une fête qui intervient après 40 jours de privation du Ramadan. Justin Trudeau rappelle que les valeurs des musulmans sont communes et universelles. Empathie, générosité, respect. Alors je vous dis à tous Aïd Moubarak, comme je pourrais vous dire Joyeux Noël, ou comme je pourrais vous dire Shana Tova. Justin Trudeau a tendu la main à une autre culture, meurtrie récemment à Bagdad, dans un attentat qui a fait 213 morts. Aïd Moubarak, chers auditeurs, rien de religieux dans cet édito, simplement envie de prononcer un seul mot, fraternité. Et comme la fraternité passe par la connaissance de la culture de l'autre sans la réduire à des clichés, sautons sur une occasion en or, la culture de l'autre vient à nous, à Paris, dès demain, avec la Japan Expo. Et pour en parler aujourd'hui, quatre invités, Thomas Sirdé, Jess Grinezer, Elsa Brands et Ahmed Agne. Il sera question de cosplay, de crossplay et de manfra. On vous explique tout, promis.
Le mag de l'été, Leïla Kadour-Boudadi sur France Inter.
Bonjour à tous les quatre et bienvenue dans le mag de l'été en ce mercredi 6 juillet. Comment ça va?
Ça va bien.
Très bien.
Ahmed Agne, oui, tout le monde. Comment rendez-vous? À suivre dans ce mag de l'été, la suite de notre feuilleton quotidien dans mon transistor. Vous vous souvenez de la grève des femmes? Non? Eh bien, on va vous rafraîchir la mémoire. Il y aura aussi la séance de rattrapage. Mais pour commencer, on s'informe avec l'agenda.
Ici Paris, Radiodiffusion Télévision Française.
Je propose maintenant d'ouvrir une grande page culture.
Événements cinématographiques.
Actualité.
Les trompettes de Maurice Jarre vont retentir ce soir. Avignon redevient pour 3 semaines le centre du monde théâtral. Le festival OFF fête sa 50e édition avec plus de 1400 spectacles, de quoi assouvir l'appétit des plus féroces d'entre nous. Quant au IN, il fête son 70e anniversaire, une année aussi marquée par le retour de la comédie française après 23 ans d'absence pour l'adaptation des Damnés de Visconti qui sera portée sur la scène de la cour d'honneur du Palais des Papes par Ivo Van Hove. Une édition politique également, l'affiche du IN donne le ton, un cheval attaché qui rue. Une métaphore de l'artiste entravé qui se débat, le mag de l'été y sera lundi 11 et mardi 12 en direct et en public.
Prepariamoci ad atterrare, Mut.
Bene.
Amis cinéphiles et amateurs de série B, réjouissez-vous, la planète des vampires de Mario Bava, tournée dans les années 60, sort en version restaurée dans quelques cinémas en France. Si vous ne l'avez jamais vu, ruez-vous sur un DVD. Ce film est la référence en matière d'épopée intergalactique et il a fait des petits. Alien, Prometheus de Ridley Scott, c'est de la science-fiction kitsch à la sauce 60s, fabriquée avec des bouts de ficelle, tout ce que j'aime. On s'est déhanché à en perdre la raison sur Wannabe, le tube qui a lancé la carrière des Spice Girls et mis en exergue le girl power. Eh bien, une ONG, Global Goals, a repris la chanson et a tourné un nouveau clip où l'on voit des femmes de toute origine se trémousser en brandissant des panneaux au message explicite. Fin de la violence envers les femmes, éducation de qualité pour les filles, parité, salaire, homme-femme, oui oui, fin du mariage des mineurs. Victoria Beckham n'a pas fait sa poche, comprenez la bourgeoise. Elle a directement relayé la vidéo sur les réseaux sociaux avec un message de soutien. chers invités, un élément de cet agenda peut-être qui vous fait réagir.
Bravo poche.
Elsa Brandt, bravo poche pour les femmes. Messieurs, qu'est-ce que vous retenez éventuellement? Quelque chose vous inspire?
Mario Bava, parce que c'est un réalisateur que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup plus jeune. C'est un plaisir de redécouvrir ses films.
Merci à Médane. On va continuer ensemble avec un voyage dans le temps et dans l'espace, justement, Mario Bava. On est en 65 avec Trouble in Mind de Nina Simone. Détendez-vous.
Someday, trouble in mind, I'm slow. My poor heart is beating so slow. I never had so much trouble in my life before. Yeah, I'm going down to the river. Gonna get me a rocking chair. If the Lord don't help me, I'm gonna rock away from here. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine in my back door someday. Away from here. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine in my back door someday. Yeah, the sun's gonna shine my back door someday. Sun's gonna shine in my back door someday.
Le Mag de l'été sur France Inter.
Pour cette première partie spéciale Japan Expo, deux invités, Thomas Sirdé et Jess Greenheiser. Thomas Sirdé, vous êtes l'un des trois cofondateurs de la Japan Expo, le plus grand festival européen consacré à la culture japonaise, qui débute demain au Parc des Expositions de Villepinte. Cet événement, vous l'avez créé en 99. En quelques mots, Thomas Sirdé, quelle est la spécificité de cette 17e édition?
Alors, déjà, si on prend Japan Expo dans son ensemble, c'est présenter tout ce qui vient du Japon, qui a un rapport avec la culture. On a comme porte d'entrée le manga, le jeu vidéo, l'animé, donc toute la pop culture, la musique. Et on va rentrer dans des choses très très pointues de la culture traditionnelle ou de l'art de vivre ou de la gastronomie. Donc le but, c'est que pour les gens qui connaissent le Japon ou non, ils puissent découvrir toutes les choses qui peuvent les intéresser au Japon. Et a priori, chacun doit pouvoir y trouver son intérêt.
Et ça coûte moins cher qu'un billet d'avion pour aller au Japon.
Ça coûte nettement moins cher qu'un billet d'avion pour aller au Japon. Et c'est moins long aussi, parce que le voyage est un peu longué. Après, cette année, dans nos grandes spécificités, on fête un anniversaire, puisque ce sont les 30 ans de la série des Chevaliers Zodiac, qui, pour les gens de notre génération, on peut bien parler. Et du coup, on fait venir plusieurs mangakas, plusieurs animateurs. On a deux expositions, donc c'est vraiment un gros focus. Et l'autre grand focus, c'est la French Touch.
Ah, la French Touch, alors. C'est quoi la French Touch?
La French Touch, c'est... En fait, ça fait 17 ans qu'on est là.
Ouais.
Et on s'est aperçu que les gens qui, comme nous, ont démarré fans de ce qu'ils faisaient, ont évolué. Et certains ont réussi à faire de leur métier la passion qui les animait plus jeune. Mm-hmm. Vous avez d'ailleurs
Elsa Brandt en plateau.
Ils se sont professionnalisés et aujourd'hui on fournit quelque chose qui sont des œuvres à part entière. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives par le passé, mais aujourd'hui on a eu un vrai résultat en France mm-hmm. et au Japon, parce que il y a des animateurs français notamment qui maintenant font carrière au Japon, commencent à avoir des postes clés dans les maisons de production japonaises, ce qui, pour nous tous, c'est hallucinant compte tenu du fait que dans les années 70, quand le dessin animé arrive en France, personne ne savait que ça venait du Japon, on s'en fichait. Quoi.
Et la Japan Expo attend à peu près combien de visiteurs ? Je sais que c'est énorme.
On devrait toucher du
bois. On touche du bois ?
Voilà, ouais. On devrait faire 250 000 personnes sur 4 jours.
Et le profil de ces visiteurs, Thomas Sirdé ? C'est quoi le public
notre cœur de cible,
à la Japan Expo ?
Notre cœur de cible, ce sont les 15-25 ans.
D'accord.
Clairement. C'est-à-dire que c'est vraiment la grande masse des gens qui viennent. Mais aujourd'hui, on a un glissement en fait vers les gens plus âgés ou plus jeunes. Puis à tel point qu'on a été obligé d'ouvrir des endroits pour changer les bébés et tout. Enfin, des choses qu'on ne connaissait pas avant, puisque le public devient très familial. Et ils sont tous... ils ont tous un intérêt pour le Japon, mais qui peut être très très distendu. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont être à fond dans Pokémon, mm-hmm. dans Naruto, et des parents qui seront un petit peu perdus dans cette pop culture-là, et qui vont aller se ressourcer dans l'art de vivre ou dans la gastronomie, où ils pourront toucher des choses qu'ils connaissent mieux, comme les sushis, si on doit prendre...
Un élément phare de la culture japonaise qu'on connaît bien. Jess Greenheiser, vous êtes designer, ancien rédacteur en chef de Japan Lifestyle, spécialiste de la culture nippone. Vous vouliez intervenir, je crois, sur le profil du visiteur de la Japan Expo.
Absolument. En fait, c'était il y a 2 ans de cela, je m'étais rendu à Japan Expo et tout à fait par hasard, j'étais tombé sur une dame charmante qui devait avoir aux alentours d'une 50aine d'années et qui me disait, moi, je reste tous les ans, en fait, scotché à la scène culturelle. Donc la scène culturelle, c'est un petit peu différent de tous les univers vraiment geeks, on va dire, hein,
ouais.
Manga, jeux vidéo, animation, etc., etc. Donc c'est vraiment des artistes venus du Japon et qui réinterprètent parfois les arts traditionnels. Donc on va voir des adaptations de légendes et de contes japonais avec des instruments classiques, etc., etc. Et c'est vraiment passionnant. Et donc cette dame là d'origine espagnole en fait vient jusqu'en France pour participer à tout ça. Effectivement, ça permet de sortir de l'image d'Épinal de l'ado en fait ou de l'adolescent qui viendrait à Japan Expo uniquement.
Et ça, c'est important de souligner que le public est divers.
Est divers et il vient en quête de découverte. Il parlait de la scène culturelle qui est notre scène Sakura. On va présenter des choses qui sont très très pointues sur cette scène et pourtant c'est plein tout le temps. Alors que je pense que si on faisait ça en dehors de notre univers de Japan Expo, ce serait beaucoup plus difficile d'acquérir ce public-là. Et là, il est là pour découvrir, donc tout le monde y va.
Alors moi, c'est le cosplay qui a retenu mon attention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jess Greenheiser, ce que c'est le cosplay ?
Rapidement, alors, je vais essayer de faire rapide parce que ça peut être assez compliqué.
C'est de la découverte, on est d'accord.
Alors, au niveau découverte, en fait, c'est un mot valise, donc basé sur costume playing, costume player, etc., etc. Donc, c'est le fait d'incarner un personnage, entre autres à travers son costume.
Alors un personnage, c'est un personnage qui est issu de quoi ? Des mangas, des jeux vidéo, d'où ça peut venir ?
Écoutez, c'est très intéressant, ça peut venir d'absolument tout. Donc par exemple, on parlait encore d'Image d'Épinal, mais on va supposer que ça viendrait de mangas, de culture japonaise, mais en fait non, pas forcément.
Le cosplay n'a pas été inventé au Japon ?
Eh bien non, écoutez, c'est une vraie question, il n'y a pas d'études académiques là-dessus. Malheureusement en fait, parce que on suppose que les premières traces reviendrait aux alentours de 1920 aux États-Unis.
C'est surprenant.
Le terme cosplay a été inventé, je crois, dans les années 80. C'était un journaliste, je crois, japonais qui l'a découvert, en fait, toutes ces choses-là aux États-Unis. Et après, on peut partir encore plus loin. Imaginez si vous incarnez un personnage en étant en vêtissant ses oripeaux, et ben on peut étendre ça, pourquoi pas, au carnaval, par exemple.
Oui.
Ou bien aller encore plus loin dans les cultures traditionnelles européennes, ou de tout temps, en fait. Hein, là, je suis désolé d'utiliser cette expression. Mais en fait, on a revêti en fait un costume pour incarner un personnage. Ça, on peut remonter aux traditions chamaniques. Pour conclure là-dessus, c'est super intéressant de voir que très 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 récemment, il y a même des œuvres de fiction françaises, bien évidemment, qui ont été récupérées pour incarner un personnage.
Alors, si je me promène dans les allées de la Japan Expo, quel type de personnage je peux voir celui qui marche le mieux?
C'est toutes les grandes licences. Il a parlé des trois grandes licences.
Ah, vous parlez d'Ahmed Han qui est ici.
Voilà, pardon. Ahmed a parlé des trois grandes licences que sont Naruto, One Piece et Fairy Tail. Donc vous avez énormément de costumes. Vous avez aussi beaucoup de costumes adaptés de jeux vidéo, notamment parce qu'il y a des belles, des grandes armures. Donc c'est des cosplays qui sont très très impressionnants. Il faut savoir que les cosplayers ont à cœur non seulement d'incarner leur personnage, mais de fabriquer
leurs costumes.
Voilà. Donc, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de savoir-faire pour faire quelque chose de haute qualité.
Et j'ai lu d'ailleurs que certains cosplayers ne voulaient pas porter à deux reprises le même costume, tellement.
Tout à fait. Et si vous naviguez aujourd'hui sur notre Facebook, vous voyez tous les gens qui annoncent. Alors moi, à Japan Expo, je viens et là, vous avez quatre images, les unes à côté des autres. Alors ça, c'est mon costume du jeudi, mon costume du vendredi, du samedi et du dimanche.
Et vous pouvez les croiser dans le métro, par exemple.
Et notamment le RER B pour la ville pointe est rempli, absolument. Et ça surprend beaucoup les businessmen là qui partent prendre l'avion. Ça égaye leur année.
Oui, je voulais rajouter quelque chose justement sur le fait de construire ces costumes. Alors premièrement, il faut imaginer qu'il y a des cosplayers essentiellement beaucoup au Japon qui peuvent acheter aussi leurs costumes. On le vit différemment. Chez nous, il faut pas oublier de mettre en avant le côté artisanat. C'est super, super important. Donc, on parle entre nous. Ça peut être rapide. On imagine, vos auditeurs imaginent peut-être quelque chose un peu de chiffon, quelque chose assez simple, mais ça peut aller très, très, très loin. Il y a vraiment plusieurs artisans dédiés qui peuvent consacrer des heures, voire des semaines, voire des mois au travail d'un costume pour incarner le plus possible le personnage.
Donc, c'est un vrai budget en plus.
C'est un vrai budget. Ce sont les heures de travail, ce sont des vraies connaissances. Il y avait une cosplayeuse française très connue qui a gagné une émission de. C'est quoi, Prêt à coudre, je crois, sur M6. Ça doit être la deuxième saison. Et donc, d'après ce qu'on m'a raconté, en gros, ce qui était assez hallucinant, c'est qu'ils ont interrogé la finaliste, donc qui avait perdu, et qui disait non, mais elle fait juste du costume ou quelque chose comme ça. En fait, elle fait du déguisement, donc c'est pas une vraie couturière. Et ça, je suis pas du tout d'accord avec cette personne.
Il y a un regard un peu péjoratif sur cet univers de toute façon en général. Et là, vous venez d'en donner un exemple. Est-ce que les cosplayers doivent simplement se contenter de ressembler au personnage qu'il a décidé d'incarner, ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'il faut qu'il parle?
Il faut qu'il le joue. Il parlait de carnaval. Le but, c'est d'incarner le personnage. Ça veut dire qu'il faut à la fois en avoir les habits ou les costumes, mais aussi la manière de se déplacer. Il y en a qui, notamment sur le festival, souffrent. Parce que quand il y a des personnages très, très déformés ou démembrés, pendant 4 jours, ils sont dans la même position. Et il faut vivre son personnage. Sinon, vous n'êtes pas complètement dans l'univers du cosplay.
Il y a un aspect compétitif dans le cosplay. Il faut savoir qu'il y a des
concours.
Il y a un championnat du monde de cosplay. Et Japan Expo, c'est une des étapes de ce championnat où ça l'a été, en tout cas par le passé. Et dans les points qui sont notés par les juges dans le cosplay, il y a l'interprétation du personnage. Et donc, il y a tout un jeu de mise en scène, de musique, d'accompagnement. Et c'est, quelque part, c'est des artistes presque à part entière.
Comment est-ce qu'on explique cet engouement pour la culture japonaise, pour le cosplay? Est-ce que vous avez une piste de réflexion?
Il y a quelques pistes.
Il y a
quelques pistes, en fait. Régulièrement, effectivement, nous tous qui sommes de la génération Dorothée, en fait, le terme est un peu galvaudé, mais c'est exactement ça. Hein. Moi, je me souviens de rentrer du collège et me précipiter sur mon pain au chocolat et mes émissions de télé.
Et vous regardez
sur la 5 et autres. Oh, ben justement, on parlait des Chevaliers du Zodiac. C'était une série que j'aimais beaucoup regarder. Et en fait, il y avait une petite opposition, vite fait, comme ça, entre les dessins animés américains qui étaient assez... comment dire, qui essaie de nous proposer des petites anecdotes de fin de « il faut bien se comporter avec les parents, c'est important ». Et les dessins animés japonais où c'était plutôt l'unité dans une équipe et le fait de se battre pour réussir à se dépasser.
Comme Olive et Tom, par exemple. Ça, ça faisait partie des programmes phares.
Oh, bien sûr.
On écoute.
Olive et Tom, ils sont toujours en forme.
Quelque part, on a été biberonné, on va dire, à la culture japonaise. Elsa Brandt.
J'ai une petite anecdote au sujet d'Olive et Tom, justement. En fait, ça passait sur la 5 vers 17h, je crois, 17h15. Et en fait, moi, je quittais le collège à 17h, donc. Et je devais faire des pointes de vitesse pour rentrer à pied pour regarder mon épisode préféré. Et donc, au départ, au début de l'année, je montais et descendais la colline qui me séparait de mon domicile pendant une demi-heure, 40 minutes. Et vers la fin de l'année, c'était plutôt en 15 minutes, tellement je voulais à tout prix voir mon dessin animé.
Comme quoi, moralité, pour faire une petite moralité à l'américaine, le manga, c'est bien comme bouger, manger, c'est vraiment un message de santé publique. Quoi. Pour vous, Elsa Brand, c'est exactement ce qui s'est passé.
C'était ma motivation.
Dans les années 80, il y a eu Jeanne et Serge qui est passé à la télé. La première année où ça a été diffusé, la fédération de volleyball a été obligée d'arrêter les inscriptions parce que il y en avait trop de jeunes qui affluaient vers le volleyball. Ça a une influence qui est inimaginable et on a absorbé tous ces codes et aujourd'hui ce qui nous fait accepter le Japon, c'est qu'on savait pas que c'était japonais à l'époque. Donc on les a juste pris comme ça, on a vu l'école japonaise à la télé quand on était petit sans jamais se dire tiens, c'est bizarre. Et puis un jour on nous a dit et c'est japonais. Et du coup, on s'est mis à accepter beaucoup plus de choses parce qu'on s'est dit, waouh, mais alors si ça c'était si bien, bah le reste ça va être vachement bien aussi. Et ainsi, c'est comme ça qu'aujourd'hui on a cette fascination pour le Japon qui est arrivée, quoi.
Restez avec nous, on continue à parler de la Japan Expo, mais tout de suite c'est l'heure de Dans mon transistor, notre feuilleton de l'été qui vous donne à entendre des voix qu'on aime et qui ont compté dans nos vies. Aujourd'hui, pour le troisième épisode de notre semaine consacrée aux grandes voix féministes, nous allons écouter non pas une, mais plusieurs voix, celles des militantes du MLF, le mouvement de libération des femmes créé à la fin des années 60. Interviewées au JT de 20h, celles-ci appellent à la grève des femmes pour protester en bloc contre la non-reconnaissance du travail domestique et contre l'assignation des femmes à la maternité. On se croirait presque chez Aristophane dans l'Athènes de Lysistrata, c'était en 74, sur l'ORTF.
Vous écoutez France Inter. Nous faisons la grève contre la situation qui est faite aux femmes dans cette société, dominée par les hommes, et cette société capitaliste aussi. Nous faisons la grève du travail domestique parce qu'il est réservé aux femmes, qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu et qui est obligatoire. Nous faisons aussi la grève des soins que l'on donne aux enfants. Nous voulons faire la grève du travail salarié parce que la condition des femmes dans le travail salarié est liée au rôle qu'elles ont assumé à la maison.
Et on fait grève, on propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari, et si je m'arrêtais de travailler, comme certaines femmes le font, 15, 16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait? Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir, et qu'on peut arrêter le système qui nous fait travailler bon, comme des cerfs.
Vous faites aussi grève de ce que vous appelez les services sexuels, pourquoi?
Non, je dirais plus précisément que c'est pas la grève des services sexuels, mais que c'est la grève de la reproduction d'enfants telle qu'on nous la propose. C'est-à-dire que des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants sont parfois obligées d'en avoir parce que l'avortement n'est pas facile. Et que d'autre part, certaines d'entre nous et certaines d'autres femmes qui veulent avoir des enfants ne le peuvent pas parce que leur situation financière, parce qu'elles ne sont pas mariées, que c'est très dur d'avoir un enfant naturel pour l'enfant, ne le peuvent pas. Et tant qu'on nous forcera à avoir des enfants quand nous ne voulons pas et qu'on nous empêchera d'en avoir quand nous le voulons, nous ferons la grève de la reproduction d'enfants, plus que la grève des services sexuels.
Quand même, on a deux femmes, il y en a une qui est au ministère de la Santé et l'autre au ministère des Femmes. Alors c'est encore une fois les tâches traditionnelles des femmes, c'est leur nature de soigner les gens, c'est leur nature d'être féminine, et ça, je crois que vraiment la grève, c'est aussi contre cette idée de nature qui prédestinerait les femmes, même quand elles sont ministres, à l'être pour ce qui est considéré dans notre société comme secondaire.
C'est la grève des femmes, on en a marre de leur vie, de leur promotion, de leur viol, de leur nuit, de leur maison. C'est la grève des femmes, on est bien réunis et plus besoin d'eux, on peut enfin s'aimer entre nous, c'est mieux.
Ah, la grève des femmes en 74. Jess Grinezer, vous vouliez réagir?
Oui, vite fait. En fait, j'avais une discussion passionnante avec la journaliste Eliane Michelon l'autre jour et on parlait cosplay et féminisme. Et on disait justement, en fait, il y avait un concours dernièrement où il y avait presque 90% de femmes, en fait, qui participaient à ce concours de cosplay, on est d'accord. Et c'est tout simplement, on se disait que ça permettait aux jeunes femmes de se réapproprier, en fait, un pan de la pop culture, tout simplement. Et toutes les luttes comme ça, féministes, où on peut avoir les femmes qui reviennent au devant de la scène, forcément, il y a quelque chose à étudier, quelque chose de passionnant à découvrir.
Comme on peut le voir avec les propos transmis par Beyoncé, notamment au sein de la musique. Et Elsa Brands, vous vouliez aussi réagir à cette grève des femmes?
Moi, je veux dire qu'effectivement, il y a encore des luttes qui doivent se faire de nos jours. Moi, personnellement, tout va bien. Il y a mon mari qui doit être en train de garder les enfants et de faire le ménage. J'espère que ce sera propre à mon arrivée.
Et bien maintenant, sur France Inter, on va écouter du Métronomie. Vous êtes merveilleuse, Elsa Brandt. Il est 18h41, c'est Night Owl.
De l'été, Leïla Kadour Boudadi.
Suite de notre émission spéciale Japan Expo avec vous Elsa Brandt et vous Ahmed Agne, honneur aux femmes, vous êtes d'accord Ahmed?
Je vous en prie.
Mais pas n'importe laquelle, oui, attention Elsa est très très raide, pas n'importe quelle femme puisque Elsa Brandt, vous êtes mangaka, vous écrivez des mangas ou plutôt des manfras, c'est ainsi qu'on désigne les mangas français, mais je crois que le mot, vous ne l'aimez pas beaucoup.
Alors, mais en fait, j'ai entendu manfra, j'ai entendu franga, j'ai entendu global manga, j'ai entendu vraiment plein de termes différents pour désigner les mangas qui étaient faits par des auteurs français. Je ne suis pas japonaise, ça, on est bien d'accord.
Mais, je confirme.
Mais quand je cuisine une pizza, je ne suis pas italienne non plus et je ne vais pas appeler ça une pifra. Donc pourquoi changer le terme de l'objet si les codes sont respectés? Je trouve ça un peu bizarre.
Donc on va dire manga pour vous, mais manfra en tout cas utilisé. Donc au moins on a expliqué à nos auditeurs ce dont il s'agissait. Est-ce que le manga, a priori comme ça, on a peut-être plein de clichés en tête. Pour moi, le manga, c'est un univers masculin. Les mangas que j'ai pu lire étaient toujours signés par des hommes.
Oh, mais il y en a tellement qui sont signés par des femmes et qui sont destinés soit aux femmes, soit aux hommes, enfin à des publics très variés, que c'est dommage de ouais. pas les connaître. Moi, mon auteur fétiche, c'est Rumiko Takahashi, qui écrit des mangas dans le style shonen. C'est-à-dire,
c'est quoi le style shonen?
Style shonen, c'est plus pour les garçons, mais on constate que en France et en Europe, les filles lisent aussi avec beaucoup de plaisir le shonen, et notamment Elle écrit des shonen très très humoristiques.
C'est très important de le souligner, je pense, pour revenir à ce que vous disiez il y a un instant. Au contraire, le Japon, c'est un pays qui est extrêmement féministe dans sa production de bande dessinée.
La société ne l'est pas tant que ça.
Oui, mais alors peut-être parce que c'est l'expression artistique de gens qui sont un peu à l'avant-garde et qui sont un peu plus ouverts sur le monde, je ne sais pas. Mais il y a énormément d'auteurs féminines qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée mondiale. Rumiko Takahashi, dont parlait Elsa il y a un instant, c'est l'auteur féminine de bande dessinée la plus lue dans le monde. Elle a vendu plus de 300 millions d'albums. C'est énorme. Et la polémique qu'on a connue à Angoulême en début d'année sur le peu de représentation des auteurs féminins en France, au Japon, il n'y aurait pas de polémique comme ça, parce que tous les ans, vous avez des nouvelles auteurs femmes qui vendent des dizaines de millions d'albums et qui ne sont pas achetés ou lus parce que ce sont des femmes, qui sont achetés ou qui sont lus parce que ce sont de bons auteurs de bande dessinée, tout simplement.
Donc le manga n'est pas un univers sexiste, contrairement à la bande dessinée, on pourrait avoir tendance à tirer le fil. Vous, Elsa Brands, comment est-ce que vous en êtes arrivée au manga ?
Eh bien, un peu comme tous les gens de ma génération, j'ai été élevée aux animés qui passaient donc à la télévision. Une fois que les animés se sont arrêtés, je me suis ruée dans les librairies pour constater que les mangas n'étaient pas encore traduits en français. Du coup, j'ai appris le japonais pour pouvoir lire les albums qui étaient importés directement en japonais.
Et vous continuez à pratiquer ?
Un petit peu, j'ai pas beaucoup l'occasion de pratiquer, mais donc je perds pas mal de vocabulaire, mais de temps en temps, j'ai plaisir à discuter en japonais, à sortir 2-3 phrases. c'est sympa.
Et vous êtes passée par la bande dessinée
voilà,
aussi?
Oui, j'ai commencé par la bande dessinée, oui. Parce qu'au tout début de ma carrière, c'était pas très répandu de travailler sous ce format-là.
Oui.
C'est le format que j'aurais voulu adapter, travailler dès le départ, mais ce n'était pas encore possible.
Et comment c'est devenu possible, tout d'un coup, de vous lancer? Alors, je cite votre manga Save Me Pity, qui est un manga très très drôle, j'ai beaucoup aimé parce qu'il mêle les aventures d'une certaine Pity qui est une prêtresse qui voit un jour un homme arriver dans le temple et elle refuse ses avances, sauf que l'homme en question n'était autre que Apollon qui avait pris les traits d'un humain. Ce sont les aventures déjantées de cette jeune fille, c'est très drôle et il y a beaucoup de mythologie, de références antique, ce qui moi me fait plaisir. Alors comment quand on est française, on veut faire du manga, tout d'un coup on va avoir une maison d'édition, on se lance?
Bah, c'est à peu près ça. J'étais entre deux contrats de bande dessinée, puisque ma série était en train de s'arrêter. Et je me suis dit, on va lancer de nouveaux projets, on va démarcher des nouvelles maisons d'édition. Et justement, il y avait quelques auteurs français qui commençaient à être publiés. Et je me suis dit, si d'autres sont acceptés, pourquoi pas moi?
Et qui sont les grands auteurs français de manga que vous avez pu
Renaud découvrir? Lemaire qui travaille sur Dreamland.
Qui sera à la Japan Expo cette année.
Tout à fait, qui est un copain. Et notamment Guillaume Lapeyre, l'auteur de City Hall. Qui est aussi mon mari, mais
ah, qui doit nettoyer,
celui qui garde les enfants et doit faire le ménage,
qui doit nettoyer
entre,
ce soir. Alors vous êtes publié chez Kana,
oui.
C'est votre maison d'édition. Il y a combien de tomes à attendre de Save Me Pity?
Eh bien là, le tome 4 est sorti en février et le tome 5 va sortir en novembre.
Quand est-ce que ça s'arrête une série? Alors je vous le souhaite pas du tout. C'est par rapport aux ventes, c'est l'éditeur qui va considérer qu'à un moment où c'est vous, parce que l'histoire s'essouffle selon vous?
Je pense que ça dépend de chaque éditeur, chaque auteur a des manières de fonctionner assez différentes. Moi, avec mon éditeur, je leur ai proposé une histoire avec un nombre de tomes définis. Après, je vais aller donc jusqu'à ce cinquième tome. S'il y a un très très gros succès, peut-être que j'écrirai une autre session, un autre cycle. Mais sinon, j'ai d'autres
tomes,
par exemple. Mais sinon, j'ai d'autres idées pour d'autres séries. Pour la suite.
Pour la suite. Alors, Save Me Pity, je viens de le dire, c'est chez Kana. Et on a aussi avec nous Ahmed Hang, on vous entend depuis le début de l'émission. Vous avez fondé Ki-Hoon, une maison d'édition spécialisée dans le manga. Vous l'avez fondée avec Cécile Pournin, c'était en 2003.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez me dire comment se porte le marché du manga en France en général ?
Le marché du manga se porte très bien. Il a connu quelques années compliquées parce que, en gros, en France, on a publié en l'espace de 10-15 ans tout ce que le Japon comptait de blockbuster sur les 30 dernières années. Donc, il y a eu vraiment une espèce d'âge d'or d'Eldorado où tous les éditeurs affichaient des croissances à deux chiffres. Et puis là, on a rattrapé le Japon. Et donc, en gros, on est arrivé au stade où, pour trouver des nouveaux blockbusters, des nouvelles locomotives, il faut attendre qu'elles émergent au Japon quelque part. C'est ce qui vient de se passer là, très récemment, puisque depuis le début de l'année, il y a trois lancements, dont un chez Ki-Hoon qui s'appelle My Hero Academia, qui sont des énormes succès et qui vont probablement porter le marché pour plusieurs années. Là.
Alors, avant de rentrer dans le détail et de parler de cette licence qui vous a été confiée, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le nombre de ventes de manga ?
Alors, le manga en France aujourd'hui, c'est une bande dessinée sur trois vendue en France, c'est un manga, faut le savoir. Et c'est plus de 13 millions d'exemplaires qui sont vendus chaque année pour un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 millions d'euros.
Ça se vend mieux que les livres ?
Ça se vend mieux que les livres, c'est-à-dire ?
Les livres en librairie, les ventes sont supérieures en termes de part de marché ? Les romans, les...
Non, on n'est pas au-dessus de la littérature en termes de part de marché, mais c'est un marché qui est grandissant et qui est considérable et qui pousse le marché du livre dans sa globalité vers la croissance, oui, absolument.
Alors, si j'ai bien compris, il y a un best-seller manga que vous éditez avec Ki-Hoon. Mm-hmm. Habituellement, les Japonais confiaient, on va dire, ces grands titres à des grandes maisons d'édition. Vous êtes un éditeur indépendant, vous êtes tout jeune mais florissant. Comment est-ce que vous expliquez qu'il soit venu vers vous ?
Déjà, je pense qu'on a fait un boulot pas trop dégueulasse depuis notre lancement et ça compte. Il y a aussi le fait que moi, comme Cécile, les Japonais quelque part ont un peu récolté ce qu'ils ont semé parce qu'on a grandi, comme Elsa disait tout à l'heure, en regardant des dessins animés japonais à la télévision depuis la fin des années 70, collégiens, lycéens. On consommait vraiment de l'animation japonaise du matin au soir. Moi, comme Elsa, j'ai découvert des mangas en version japonaise dans une librairie qui s'appelait Tonkam, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement.
Vous parlez japonais.
Exactement, parce que ces mangas-là qui étaient en japonais, il y avait une énorme frustration. Je regardais les images, j'essayais de les décrypter et je n'y arrivais pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas apprendre le japonais à la fac, tout simplement.
Ça, c'est un très beau message, parce qu'on aurait tendance à penser que le lecteur de manga est juste un ado attardé qui fait rien de ses journées. La motivation pour apprendre une langue étrangère, pour accéder à une autre culture, je trouve que c'est quand même
mais c'est vraiment le manga comme l'animation japonaise, c'est des phénomènes culturels qui ont marqué de manière très profonde une génération entière, parce que ce qu'on nous proposait jusqu'à présent en bande dessinée comme en animation, c'est des choses qui s'adressaient exclusivement aux enfants et qui parlaient aux enfants comme les adultes ont parfois tendance à parler aux enfants, c'est-à-dire de manière assez réductrice, entre guillemets. Là, on découvrait d'un seul coup quelque chose de révolutionnaire en termes de narration, des histoires qui prenaient pas les enfants pour des abrutis, avec un vrai développement scénaristique, un vrai développement de personnages. Et du coup, ça a vraiment marqué les gens. Et quand il y a quelque chose qui marque les gens de manière aussi puissante, on s'est tous intéressés au Japon, on a tous eu envie d'apprendre le japonais, on a tous eu envie d'y aller. Et aujourd'hui, moi, j'en fais mon métier, je parle la langue, effectivement, mais les Japonais ont récolté ce qu'ils ont semé quelque part sans le vouloir, forcément.
La fièvre japonaise. Vous écoutez France Inter, le mag de l'été. Il est 18h55 et c'est le moment de notre séance de rattrapage. Un conseil culture hors actu, hors promo, parce que c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et le mercredi, parole à ceux qui œuvrent avec moi.
Et vous peignez quel genre de peinture ?
Abstrait.
Oh, mais j'adore l'abstrait.
Aujourd'hui dans le Mac de l'été, l'ami qui vous veut du bien pour de vrai, C'est Albert Algout. Bonjour Albert.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être là.
Et
ça
moi
me fait
je suis
drôle,
enchantée de savoir que tu as accepté de venir dans cette émission. Alors, de quoi tu nous parles? Ton coup de cœur, ton cri d'amour?
Alors, mon cri d'amour, ben, c'est un bouquin extrêmement drôle. C'est la sortie en livre de poche avec un inédit. Donc, c'est un livre de Pascal Fioretto. Ça s'appelle « Et si c'était niais ?» Et « Et si c'était niais ?» c'est un recueil de pastiches. Hein, de pastiches littéraires. Et c'est très, très drôle.
Et si c'était niais, ça fait référence à quel vrai titre, Albert?
Ça fait référence à un livre de Musso ou de Marc Lévy.
De Marc Lévy.
De Marc Lévy,
voilà, c'est ça. Et si c'était vrai?
Et si c'était vrai, voilà. Alors, revenons à Pascal Fioretto. Il pastiche BHL, Cri... Alors, tous les, comment on dit, blockbusters, c'est ça?
Ouais. Hein,
les gros vendeurs. Donc, Marc Lévy, on vient d'en parler.
Un blockbuster, c'est plutôt pour les films, alors.
Pour les films, alors, bon,
c'est
les
best-sellers.
Les best-sellers, voilà. Les best-sellers. Alors, il les appelle Mélanie Nothelon, Bernard Verbeux, Jean Dormismont, Jean-Christophe Ranger, Frédéric Besbéger, Anna Gavolda. Et précédemment, il avait sorti aussi L'élégance du maigrichon. Et vous voyez l'écrivain Christian Sagnol ou Signol.
Oui.
Bon, lui, il a inventé un écrivain, c'est Christian Pignol. Et il a écrit un bouquin, c'est Les engoulements de la Grange au Loup. Et ça commence comme ça. Vous savez, c'est les romans du terroir, pittoresque et tout. Alors, prologue, Les ailes du vieux moulin. Et ça commence comme ça. C'est pour donner une idée du talent de Pascal Fioretto. L'hiver, la Glavoise est un torrent boueux dont les flots tumultueux charrient des arbres morts, des rochers noirs et des sangliers surgelés. Vous voyez, il donne la note. Et dans Si c'était niais, donc il sort en pocket, hein, j'ai dit en poche, mais il y a le livre de poche, mais là c'est pocket. Donc il y a par exemple Denis Henri Lévy, je voulais peut-être vous lire un passage.
Ah oui, avec plaisir.
Christine Anxio.
Qui fait référence à Christine Angot, on est d'accord.
Par exemple, la semaine au Touquet se passe mal, je vais faire les courses tous les jours, matin et soir, point. Je lui parle des ballonnements, point. Je lui dis, je t'en demande beaucoup, mais viens voir ce que j'ai fait ce matin. Il ne veut rien savoir, il me dit... Je ne veux rien savoir. Il est allongé sur le dos. Je touche ses boules. Il grimace. Tu as les mains froides, Christine. Je le gifle. Il pleure. Il dit, tu es complètement siphonné. Je lui dis, tu es méchant, 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 méchant. Je vais mettre ton nom dans mon prochain livre. Voilà, c'est exactement... hein, c'est tout à fait ça, c'est très drôle. Donc, Marc Lévis. Alors, Marc Lévis... Il y a Hygiène du tube et tout le tremblement de Mélanie Nothelon, très très drôle. Qui d'autre, je pourrais vous citer encore.
Il y a... Je suis conquise, Albert. Je suis conquise. Bon, N'en dites pas plus.
Ça va, je vous en dis pas plus.
N'en dis pas plus.
Voilà,
rappelez le titre et le nom de l'auteur.
Alors Pascal Fioretto et Si c'était niais, donc DHL, Christine Anxio, Marc Lévis, Anna Gavolda, Mélanie Nothelon. C'est en pocket et c'est vraiment très drôle. C'est une lecture d'été, ça tient facilement dans un petit sac ou dans la poche arrière.
Merci beaucoup Albert Algout pour ce précieux conseil. Vous revenez quand vous voulez.
Merci.
Et merci à tous les quatre. Merci Elsa Brandt, merci Ahmed Agne, Thomas Sirdé et Jess Greenheiser. Je rappelle que la Japan Expo, c'est dès demain pour 3 jours avec les Chevaliers du Zodiac. 4 jours, pardon, Chevaliers du Zodiac. Demain, encore le Mac de l'été.